Europe Soir, le 18-20, Julien Bugier.
Avec ce soir à 19h22, un invité exceptionnel dans le club des idées d'Europe Soir. L'une des grandes figures morales d'une certaine gauche, candidat à la présidentielle en 2002, plusieurs fois ministre, dont l'intérieur en 97. 50 ans d'engagement politique et d'engagement intellectuel qu'il raconte aujourd'hui dans ses mémoires. Près de 500 pages où pour la première fois il se livre et raconte sa vérité. Bonsoir Jean-Pierre Chevènement.
Bonsoir.
Merci de nous accompagner jusqu'à 20h dans le club des idées. Ses mémoires, elles s'intitulent « Qui veut risquer sa vie ?» La sauvera, c'est aux éditions Robert Laffont. J'ai lu d'ailleurs que c'était une parole de saint Matthieu. Pour le défenseur de la laïcité que vous êtes, c'est une forme de clin d'œil ?
Qui veut sauver sa vie la perdra, qui veut risquer sa vie la sauvera. Et c'est une maxime de vie. On n'a pas besoin d'être croyant, mais prendre des risques, s'engager, c'est fondamental pour donner sens à sa vie. Mmh. Et il faut que chacun puisse donner un sens à sa vie. C'est ce qui nous permet de vivre et de rebondir.
Je vous pose la question parce qu'on va beaucoup parler de ce qu'il y a dans le livre, de votre parcours, de votre engagement militant, de votre carrière politique d'une certaine manière, de votre enfance aussi, parce que moi j'ai appris plein de choses en lisant ce livre, ces mémoires. Mais je voudrais aussi votre regard sur l'actualité, évidemment, et comme on parle de laïcité, est-ce que vous diriez aujourd'hui qu'elle est en danger en France, cette laïcité ?
Elle a toujours été un combat, et un combat très difficile. C'était le combat contre l'idée que le politique et le religieux se confondaient. C'était le combat contre le droit divin de l'Ancien Régime, qui se prolongeait tout au long du XIXe siècle dans un courant de pensée éminemment réactionnaire. Donc, se battre pour la laïcité, c'était se battre pour la liberté de penser, c'était se battre contre l'ignorance, c'était la définition de Jean Massé. La laïcité, c'est le combat contre l'ignorance, c'était le combat pour les Lumières. Et je pense que ce combat est toujours actuel. Alors, peut-être que les partisans du droit divin ne sont plus les mêmes, hein, ce sont les islamistes, mais le combat pour la République laïque, il est toujours...
Mais vous diriez qu'il y a un péril islamiste en France aujourd'hui ?
Bah écoutez, je crois qu'il est difficile de le contester. Hein. C'est évident, hein, non seulement à travers les attentats que nous avons déjà subis, mais à travers les modes de vie que certains veulent nous imposer.
Bien. Votre enfance, vous la passez, parce que vous commencez le livre comme ça, vous la passez dans un village du Haut-Doubs. Vos parents sont instituteurs, avec en toile de fond la guerre et la France occupée. D'ailleurs, vous commencez vos mémoires par ces mots. C'est la première phrase, page 5, c'est la première phrase de vos mémoires. On ne naît pas impunément en 1939. Ma passion de la France a commencé cette année-là, avec la guerre mettant à nu ses faiblesses. C'est une jolie phrase et on sent le poids qu'a eu le conflit et puis la déportation de votre papa qui était militaire et qui est resté quasiment pendant l'ensemble de la guerre prisonnier.
Jusqu'à 1945,
prisonnier dans un camp.
Élevé par ma mère qui, plutôt que de me confier à de gentilles petites bonnes, m'emmenait avec elle à l'école. Donc j'ai appris très tôt à lire et à écrire en écoutant simplement ce que ma mère pouvait dire en s'adressant tantôt aux petits, tantôt aux grands. Donc voilà, c'est mon parcours de fils d'instituteur laïque.
On sent qu'elle tient une place particulière dans votre cœur et dans votre construction, votre mère. Vous en parlez beaucoup dans ce premier chapitre.
Ah, je suis redevable à ma mère de solides principes hein, et d'un surmoi qui, je le dis, a peut-être un peu écrasé mon moi.
C'est-à-dire ?
C'est-à-dire que je ne me laisse pas aller à courir après mes intérêts personnels. Je me pose toujours la question de ce que je dois faire dans telles circonstances en fonction d'une analyse du monde. Et si vous lisez mon livre avec attention de bout en bout, comme je crois que vous l'avez fait, vous verrez que c'est toujours au nom d'une certaine vision, d'une philosophie, que j'agis comme ministre de l'Éducation, comme ministre de la Défense, pendant la guerre du Golfe, ou bien quand j'entreprends de reconstruire la gauche à partir du congrès d'Épinay, du programme socialiste et du programme commun que François Mitterrand me charge d'élaborer ou de négocier. Donc il y a toujours une grille de lecture, une pensée qui explique l'action.
Si je puis me permettre,
et une cohérence, parce qu'il y a entre chaque chapitre, je dirais, un fil qui court. On peut contester cette cohérence. Je ne dis pas que j'ai raison. Mais en tout cas, la cohérence, elle est là à travers un récit dont je vous assure qu'il est sincère. Je n'ai pas cherché à tirer la couverture à moi. je n'ai pas fait un livre de propagande, un livre de souvenirs.
Si je puis me permettre, en tant qu'observateur, c'est ce qu'on ressent quand on lit votre ouvrage. Alors, on va parler dans un instant de votre construction aussi politique, de votre esprit rebelle qui apparaît en filigrane à travers le livre, que ce soit enfant, mais aussi plus tard quand vous avez été ministre, démissionnaire 3 fois quand même. On en parle juste après la pause et on se retrouve avec Jean-Pierre Chevènement en direct.
Europe Soir, le 18-20, Julien Bugier.
Avec ce soir un invité exceptionnel dans le club des idées d'Europe Soir, il s'agit de Jean-Pierre Chevènement qui publie ses mémoires, 50 ans d'engagement politique, 50 ans d'engagement intellectuel qu'il raconte au travers de ses 500 pages absolument passionnantes. Alors, juste avant la pause, j'évoquais votre esprit rebelle. Vous en parlez dès votre enfance avec un certain nombre d'anecdotes assez croustillantes d'ailleurs. Et plus tard, cet esprit rebelle va faire que vous démissionnez 3 fois. 3 fois d'un poste de ministre, ce qui est assez, je crois, inédit dans l'histoire de la Ve République. 83, en raison du tournant de la rigueur. 91, en refusant l'intervention militaire française en Irak. Vous êtes ministre de la Défense. Et en 2000, vous êtes ministre de l'Intérieur. Vous quittez le gouvernement en raison de divergences sur le dossier Corse. Et vous êtes par conséquent le détenteur de cette fameuse phrase prononcée en 83, le jour où vous quittez le gouvernement. Un ministre, ça ferme sa gueule. Si ça veut l'ouvrir, eh bien ça démissionne. Je crois que c'est une phrase que vous avez prononcée en Conseil des ministres, mais que...
Non, c'est une phrase que j'ai prononcée dans une conférence de presse où, après une affaire un peu vive entre François Mitterrand et moi sur les entreprises nationales, pour écarter toute espèce de débat, j'ai coupé court en disant « Écoutez, je ne réponds pas à votre question parce qu'un ministre, hein, ça ferme sa gueule et si ça veut l'ouvrir, ça démissionne. »
En tout cas, c'est resté une phrase célèbre et vous en aviez parlé il y a bien longtemps avec un journaliste qui s'appelait à l'époque, que chacun connaît, Jean-Claude Bourret. C'était sur la 5. Écoutez cet extrait.
Un ministre, ça démissionne ou ça ferme sa gueule, c'est une phrase dont vous vous souvenez, c'est vous qui l'avez prononcée.
Et là... Je l'ai prononcée le jour où j'avais décidé de quitter le gouvernement en 1983. J'ai toujours eu une certaine conception, je dirais, un certain sens de l'État.
Comment percevez-vous aujourd'hui, Jean-Pierre Chevènement, le fait d'incarner une figure de l'ordre républicain, une figure de l'autorité ?
Je pense que, parce qu'il y a quand même une certaine continuité entre mon comportement, ma philosophie, que j'ai pu mettre en œuvre comme ministre de l'Éducation nationale, par exemple, en rétablissant l'éducation civique ou en revoyant les programmes scolaires. Disons que j'ai donné un certain angle à notre politique et, comme ministre de l'Intérieur, j'ai conçu la politique de sécurité comme étant le prolongement de ce que j'avais fait comme ministre de l'Éducation. C'est-à-dire, je pense qu'il y a un rapport entre la sécurité et la citoyenneté. La citoyenneté, ça s'apprend, mais malgré tout, comme on ne peut pas toujours tout apprendre en matière de citoyenneté, mais il faut aussi exercer une juste répression.
Mais comment expliquez-vous aujourd'hui, justement, Jean-Pierre Chevènement, votre regard sur les choses, comment expliquez-vous cette défiance aujourd'hui vis-à-vis de l'autorité, cette perte de repères, le fait que des pompiers soient caillassés, que des policiers soient attaqués
L'explication, c'est ce que Jérôme Fourquet appelle l'archipélisation de la société française, c'est-à-dire son éclatement en îles qui s'éloignent de plus en plus les unes des autres. Je pense que ce sont ces fractures qu'a creusé le néolibéralisme, mais aussi un esprit libéral-libertaire qui refusait le principe d'autorité. Je vous rappelle qu'en mai 68, un des slogans les plus courants, c'était « Il est interdit d'interdire
oui. ».
Ou bien alors c'est le refus des limites.
Vous n'avez pas aimé 68, Jean-Pierre Chevènement. Vous êtes passé
Je ne l'ai pas rejeté, mais je ne l'ai pas vraiment aimé. Non, je suis d'une génération un peu antérieure, celle de la guerre d'Algérie.
On le sent bien dans votre livre. Hein. Vous dites les gauchistes. Je passais devant les barricades et je voyais les gauchistes. Voilà, c'est un mot que vous répétez souvent et on sent que vous êtes complètement détaché par rapport à ce qui se passe.
Je me baladais, je regardais.
Vous êtes un homme de gauche, vous êtes un homme qui a la fibre sociale, mais vous ne comprenez pas ou vous ne voulez pas comprendre le mouvement 68.
Parce que c'était des étudiants qui n'étaient pas vraiment des fils d'ouvriers, hein, c'était quand même des fils de bourgeois. Donc je les regardais avec un certain amusement, mais en même temps, ce n'était pas ce que j'avais conçu pour l'avenir de la France. Je pensais que si la gauche devait venir au pouvoir, c'était par la voie des urnes, en reconstituant un grand parti socialiste. Et c'est à travers le congrès d'Épinay et le programme socialiste que François Mitterrand m'a confié, le programme commun et la suite que nous y sommes parvenus longtemps après, 1981. Oui. Donc j'ai milité quand même 16 ans avant.
Oui, 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 vous racontez d'ailleurs très bien cette marche vers le pouvoir, la manière dont vous l'accompagnez et vous aidez François Mitterrand, et puis la sensibilité politique qui est la vôtre, que vous faites émerger dans le programme commun. Encore un mot, monsieur l'ancien ministre de l'Intérieur, sur la sécurité aujourd'hui que connaît la France. On assiste à une bataille sémantique pour nommer les choses. L'ensauvagement de la société. Je vais vous demander si c'est un mot qui vous gêne. Mais d'abord, je voudrais qu'on écoute que vous aviez qualifié à l'époque, non pas d'ensauvagement, mais de sauvageon. C'était en 99 à propos de mineurs multirécidivistes.
C'est certainement mieux à faire que de tirer par les pieds des spécialistes des sit-ins. Je pense qu'on la demande dans les quartiers chauds, où de jeunes sauvageons brûlent la voiture de leurs voisins.
Voilà, sauvageons, aujourd'hui ça paraît rien, mais à l'époque, ça avait suscité un tollé de la part de vos amis, à gauche notamment, qui disaient, Monsieur Chevènement, vous êtes en train de stigmatiser les jeunes de banlieue.
Mais non, c'était pas du tout ça. Le sauvageon, c'est un arbre non greffé, un vieux mot français, et j'incriminais le défaut d'éducation. C'était une pousse qui n'avait pas de tuteur et qui, au lieu de s'élever à la verticale, eh bien, restait à l'horizontale. C'était le jeune planté devant sa télévision par ses parents qui, à la fin, confondait le virtuel à le réel et pouvait commettre un crime gratuit. Oui. Donc, sauvageon, c'était une manière de pointer le défaut d'éducation. En sauvagement, c'est un peu différent, mais moi, je ne veux pas chercher querelle à Gérald Darmanin de l'emploi de ce mot.
Il faut laisser... C'est un faux débat, la sémantique.
Oui, c'est un débat sémantique. Il faut laisser à chacun une certaine créativité verbale et ne pas oublier que derrière tout ça, il y a quand même des actes barbares qui se sont multipliés. J'évoque, c'était en 2016, si je me souviens bien, deux policiers qui avaient failli brûler vifs dans leur voiture, à Viry-Châtillon. C'était monstrueux. Je vois ce contrôleur de bus qui est assassiné parce qu'il demande à des jeunes de porter leur masque. C'est inadmissible.
Donc vous êtes d'accord pour dire qu'il y a d'une certaine manière un ensauvagement de la société ?
Alors ça, c'est un mot que je n'ai pas employé, mais qui ne me choque pas outre mesure. À vrai dire, je pense qu'il y a une augmentation de certaines violences commises contre les personnes, des violences sexuelles, et puis il y a plus d'homicides aujourd'hui qu'hier. Mais en même temps, je pense que le niveau global de délinquance n'a pas tellement augmenté. Si on prend la comptabilisation des crimes et des délits, on voit qu'il y a une certaine stabilité depuis le début des années 80. Mais par contre, certains actes sont plus nombreux et la violence est peut-être plus intense.
Oui.
Et il y a par exemple dans l'attitude à l'égard de la police une violence inadmissible.
Bien.
Parce que le policier, c'est le gardien de la paix.
Oui.
Il faut le respecter. Or, la peur du gendarme, ça n'existe plus.
Alors, dans quelques secondes, juste après la pause, je vous demanderai s'il y a encore, selon vous, un esprit de gauche. Et puis, on parlera de la République, votre définition de la République. À tout de suite.
Europe Soir, le 18-20, Julien Bugier.
Avec à 19h41 un invité exceptionnel dans le Club des Idées ce soir, Jean-Pierre Chevènement, l'ancien ministre qui publie ses mémoires, qui veut risquer sa vie, la sauvera. C'est aux éditions Robert Laffont. Alors, on évoquait Jean-Pierre Chevènement juste avant la pause, l'esprit de gauche. Y a-t-il encore pour vous un esprit de gauche aujourd'hui? Je vous pose la question parce que c'est vrai que d'abord le personnel aujourd'hui à gauche semble moins capable de mener le Parti Socialiste à une possible victoire. On a vu les dernières élections. Et puis il y a aussi des symboles. Vous savez, la revue Le Débat, par exemple, fondée par Pierre Nora et Marcel Gaucher, qui a cessé il y a 4 jours sa parution, après 40 ans à agiter le débat au sein de la gauche. Y a-t-il encore aujourd'hui, Jean-Pierre Chevènement, un esprit de gauche?
Alors, la disparition du débat, symbole consternant du fait qu'on ne débat plus, on n'argumente plus. Or, la gauche, elle vient de la Révolution française. Elle porte l'esprit des Lumières. Et elle s'applique au XIXe siècle à changer les conditions sociales. C'est ce qu'on appelle le socialisme, qui est fait de courants multiples. La première unification en 1905, Jaurès, le congrès de Tours et la suite. Donc il y avait une gauche fracturée que nous avons voulu réunir pour en faire jaillir une énergie qui a été au rendez-vous. Et je pense que le CRS, le petit think tank que j'ai créé, avait cette originalité.
Petit, mais avec une forte incidence.
Et avec des têtes, avec des gens tout à fait remarquables, les Motchan, les Guidoni, Sarre et beaucoup d'autres.
Et qui est votre héritier aujourd'hui, d'une certaine manière?
J'en ai beaucoup. Il y a des gens pour lesquels j'ai de la sympathie ou de l'affection. J'ai de la sympathie pour Emmanuel Macron, de l'affection pour Arnaud Montebourg. Disons que je ne vais pas faire une énumération, parce que de toute façon, ça n'a rien à voir avec la politique. Ce que beaucoup de gens ne comprennent pas, c'est que la gauche est morte d'une certaine manière.
La gauche est morte.
Provisoirement, elle est morte d'avoir épousé le néolibéralisme. Quand elle a, par exemple, proclamé, au nom de l'acte unique, négocié par Jacques Delors, la libération des capitaux, sans harmoniser la fiscalité de l'épargne.
Mais pour vous, ça arrive dès 83, ça, le tournant de la rigueur, pour vous, c'est au moment où vous démissionnez.
Alors, il faut tirer le fil, parce qu'après 83, Jacques Delors, en 84, devient président de la Commission européenne. Et avec l'accord de Kohl et de Mme Thatcher, de Lord Cockfield, qui est chargé de rédiger le livre blanc, eh bien, il réalise cette déréglementation à l'échelle de l'Europe que Thatcher et Reagan avait proclamé dans les pays anglo-saxons. Donc c'est de cela que peu à peu, la gauche est morte, enfin en tout cas elle est tombée à 6% aux dernières élections générales, c'est quand même pas terrible, et si on veut repartir, c'est sur l'axe républicain.
Et qui peut porter ce nouveau départ, cette nouvelle impulsion de la gauche socialiste?
Alors moi je le porterais bien, mais mon âge me l'interdit, hein. Mais l'idée républicaine, dans toute sa force, sa cohérence, reste aujourd'hui ce qui permet de redresser le pays. Et il faut toujours penser à l'intérêt général du pays. C'est cela la res publica, la République. L'intérêt général servi par des citoyens qui ont appris à penser par eux-mêmes grâce à l'école laïque.
Oui.
Tout cela, c'est un corps de principe que nous devons faire vivre à nouveau.
Et Mélenchon, dans tout ça, Jean-Pierre Chevènement, Jospin, à ce micro, il y a quelques jours, louait son talent, ses intuitions politiques et son sens du verbe. La France insoumise, disait-il, est un mouvement qui compte et que l'ancien Premier ministre regarde avec sympathie et sans effroi. Est-ce que c'est votre cas aussi?
Tout ça m'a beaucoup amusé parce qu'effectivement, ils ont voté ensemble le traité de Maastricht. Alors depuis, Mélenchon a quand même fait un peu de chemin. Je crois, j'aimerais le croire.
Hein. En sens inverse.
Je l'invite à être plus républicain et à donner moins de place à la démagogie qui est toujours une facilité. Alors que la citoyenneté exige de l'abnégation et que la République, c'est d'abord une école d'ascétisme et de dévouement.
Le président Macron, c'est un bon président parce que vous venez de dire la gauche c'est dévoyée quand elle est partie dans le libéralisme. On accuse souvent le président Macron d'être sur le plan économique plutôt libéral.
Mais Macron a été élu au moment où justement le néolibéralisme était arrivé à extinction. Donc il a été pris un peu à contre-pied par rapport à son programme initial. Vous rappelez qu'il attendait de l'Allemagne qu'elle procède à une relance à travers un budget de la zone euro. Ça ne s'est pas fait, mais le Covid est arrivé et aujourd'hui, tout le monde est bien obligé de faire une relance. Il y a une banque centrale qui crée des liquidités et il faut tenir, rendre cette justice au président Macron que sur l'affaire européenne, il a manœuvré finement. Avec les élections européennes, la désignation de Mme Lagarde à la tête de la Banque centrale, de Mme Ursula von der Leyen, qui est une Allemande mais francophile,
oui.
à la tête de la Commission. Donc il a su placer des gens comme Thierry Breton au marché intérieur. Je pense que les Français ne le voient pas concrètement, mais c'est une politique très astucieuse, dont il ne peut d'ailleurs pas trop se vanter pour ne blesser personne.
Monsieur Chevènement, pour terminer, est-ce que vous voulez bien vous prêter à un jeu de questions-réponses spontanées, questions courtes, réponses courtes? Ce que vous détestez par-dessus tout?
L'hypocrisie.
Est-ce que vous êtes plutôt François Hollande ou Ségolène Royal?
Je préfère Ségolène.
Est-ce que l'écologie, pour vous, c'est une nécessité ou on en fait trop?
Je pense qu'on fait beaucoup de bêtises. Par exemple, la taxation carbone des avions, l'aéronautique est déjà en grande difficulté, ce n'est pas une bonne idée. Hein, ou bien alors les terres rares. Nous avons des terres rares en France, mais nous ne les exploitons pas pour des raisons qui tiennent à une conception dévoyée de l'écologie. Moi, je suis pour la préservation des biens communs de l'humanité, mais je ne suis pas pour le dogmatisme, je ne suis pas pour une écologie tracassière, punitive. Je pense que ça, c'est une erreur.
Est-ce que vous pensez que le Rassemblement national peut un jour diriger la France?
Je ne crois pas.
Pourquoi?
Parce qu'il y a un plafond de verre et que, même si Marine Le Pen l'a relevé substantiellement, de 18%, score de Jean-Marie Le Pen, qui avait suscité tant de cris d'orfraie le 21 avril 2002, on est passé à 33%, silence complet. Hein, et je pense qu'aux prochaines élections, elle peut faire mieux encore. Mais je ne pense pas qu'elle ira à la majorité, parce que ce serait mauvais pour la France et que les Français intuitivement le comprennent.
Est-ce que vous avez des regrets dans votre carrière politique ?
Si j'ai des...
Regrets ?
Si j'ai des regrets.
2002, par exemple, quand vous vous présentez.
Non, et mon livre l'explique très bien. Lionel Jospin n'avait qu'à me garder dans son gouvernement, plutôt que de me donner tort sur un sujet où j'avais évidemment raison et où il s'était exprimé dans l'autre sens dans son discours d'investiture. Disons que j'ai défendu mes idées. C'est le propre d'un homme politique de se battre pour ses idées.
Bien, et ma dernière question sera, comme le disait Jacques Chancel, est Dieu dans tout ça ?
J'ai eu une enfance à la fois laïque et en même temps chrétienne. Et je suis reconnaissant aussi à cette tradition de m'avoir appris, à travers un effort d'introspection, à discerner les péchés que j'avais commis. Alors, pour répondre à votre question précédente, je n'arrivais pas à en trouver. Hein, il est vrai que j'étais très jeune, je devais avoir 11 ans, et c'était à la confession, et l'aumônier du lycée Victor Hugo me demandait quel péché j'avais pu commettre, et je ne trouvais pas. Donc voilà, je plaide non coupable.
Bien, c'est une bonne réponse. Merci beaucoup Jean-Pierre Chevènement d'avoir été ce soir notre invité exceptionnel dans le Club des Idées. Et dans quelques secondes, on va continuer à parler de vous avec Le Jour Où. C'est une séquence, Jean-Pierre Chevènement, où on remonte dans les archives et on a retrouvé les archives qui racontent en quelque sorte que vous avez théorisé eh bien, la démission du gouvernement. On en parlait juste ensemble il y a quelques instants. A tout de suite.